France Inter, le 18-20.
Le coup de barre, il est venu à l'heure habituelle cet après-midi, autour de quoi ? 15h, hein, 16h, je sais pas ce que j'ai, mais je suis crevé. Vous l'avez mis sur le compte de l'heure d'été, maudite heure de moins, mais en fait, si vous êtes honnête, le coup de barre, c'est tous les jours. Le manque de sommeil chronique, les réveils à regarder, à regarder passer les minutes toutes les nuits. Nous y sommes, les insomnies passagères, mais interminables, sans compter que vous vous êtes encore endormi hier soir sur le générique du film et que, vous savez quoi, ce soir, ce sera pareil. On est tous crevés, mais c'est pas forcément irrémédiable. Comment fait-on pour retrouver un sommeil réparateur ? Faut-il, tiens, laisser son portable dans une autre pièce ? Par exemple, évidemment, l'ordi dans le lit, c'est pas forcément idéal. Il y a des méthodes et peut-être une manière d'être mieux dans sa vie, une manière de mieux dormir. Le sommeil, figurez-vous, c'est la santé et on en parle ce soir.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Micheline, bonsoir. Micheline, on vous a déjà perdu, à moins que vous dormiez, ce qui serait quand même un problème. Bonsoir Micheline. Ah ben on n'a pas Micheline. Eh ben écoutez, Micheline a disparu, alors c'est pas très grave. En attendant d'essayer de retrouver Micheline quelque part, je vais vous présenter les invités qui sont autour de la table ce soir. Bonjour. Ah ben Micheline, vous êtes revenue.
Voilà.
Micheline, je croyais que vous vous étiez endormie, figurez-vous.
Pas du tout.
Allez-y, on vous écoute.
Donc, je voulais intervenir à la fois sur le sommeil des enfants et des adultes. Sur le sommeil des enfants, je pense que beaucoup de parents, j'étais enseignante, beaucoup de parents ignorent totalement combien d'heures doit dormir un enfant la nuit. Et je sais pas, moi je pense que c'est 12 heures en maternelle et 10 heures en primaire et pas loin, et autour de 9 heures ensuite, etc. Et je pense qu'ils ne les ont pas, on le voit, on le constate. Et ensuite, en ce qui concerne le sommeil des adultes, je pense que dans les décennies qui viennent de passer, on a perdu une heure de sommeil, ceux qui le soir sont tellement fatigués qu'ils se mettent devant leur poste de télé. On a perdu au départ... La soirée commençait à 20h30, elle commence maintenant à 21h, une demi-heure de perdu. Et pour ceux qui regardent des chaînes non publiques, une demi-heure de publicité et encore une demi-heure de plus. Et donc, tout le monde se couche beaucoup plus tard qu'on ne se couchait il y a à peine 20 ou 30 ans.
Voilà, et c'est votre cas aussi, Micheline, ou pas ?
Moi, je suis retraitée, alors vous savez, je vis sans réveil, je me couche quand je veux et quand j'ai assez dormi, je me réveille.
La chance que vous avez, merci beaucoup pour votre témoignage, Micheline, et cette entrée en matière, si je puis dire, du téléphone sonne autour de la table. Donc, pour en parler jusqu'à 20h, Sylvie Royan-Parola, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et spécialiste du sommeil. Bonsoir Damien Léger.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du centre du sommeil à l'Hôtel Dieu Paris Descartes et président de la Société française de recherche et médecine du sommeil. Est-ce que c'est vrai, Damien Léger, qu'on dort moins pour des raisons aussi triviales que ce que dit Micheline? La télé plus tard, c'est bête et méchant, mais ouais, ça existe.
Mais complètement, on se demande, d'ailleurs, on s'était demandé à une période si, pourquoi le journal télévisé comme ça est à 20h. Il y a beaucoup de pays où il est à 19h, finalement les gens rentrent plus tôt, déjà à la maison c'est mieux, et puis ensuite ils se couchent plus tôt, ils arrivent à dormir un peu plus. Et en effet il y a une sorte de décalage un peu dans les médias, mais pas uniquement, sur le plan social, sur le plan environnemental, on a tendance à essayer de couper la nuit. Et ça c'est très perturbant en effet, de moins en moins de sommeil, de moins en moins de gens qui dorment une vraie nuit. Et avec toutes les conséquences que Micheline nous décrit dans la journée, la somnolence, le manque d'attention en classe.
Mais tendance à couper la nuit, ça veut dire quoi ?
Couper la nuit, c'est-à-dire tout d'un coup, ça n'existe plus, vous rallumez votre téléphone, votre écran, et hop, vous repartez sur une nouvelle, un nouvel éveil, une nouvelle journée, et vous coupez la nuit en morceaux.
Sylvie Royan-Parola, sur ce que dit notamment Micheline et le fait qu'on se couche plus tard, de toute façon, on se couche plus tard dans la vie maintenant par rapport à ce que
globalement, le rythme est en train de changer. Effectivement, on voit un décalage de phase, c'est-à-dire une nuit qui est de plus en plus grignotée le soir par des activités, par un travail qui est tard et des temps de transport aussi qui sont importants, qui fait que les gens rentrent tard. Et du coup, là, toutes les activités de loisirs, en particulier par la télévision, ont déporté les émissions. Et avant, il y avait effectivement une première tranche, une deuxième tranche. Maintenant, il y a une troisième tranche à 11h30 minuit. Et de surcroît, depuis 2007 et avec une généralisation depuis 2010, on voit arriver les smartphones. et les tablettes qui vont faire que là, ça va être non seulement dans la soirée, dans l'activité sociale de la soirée, mais dans le lit, que l'apparition de ce genre d'outils absolument fascinants va encore grignoter un peu plus notre temps de sommeil.
On va y revenir forcément sur les tablettes. Vous parliez de couper le sommeil tout à l'heure, vous parliez des transports, Sylvie Royan-Parola. Question bête, est-ce qu'il faut se laisser dormir dans les transports? Je dis ça très sérieusement, en fait, ou est-ce qu'il vaut mieux lutter pour, une fois arrivé, être un peu plus en forme et avoir une vraie nuit derrière plutôt que de commencer dans le bus ou dans le métro?
C'est très bien de dormir dans les transports, si c'est possible. On avait fait une enquête avec l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance sur le sommeil des Français et les transports. Et on a vu comme ça, une grande majorité des Français récupéraient...
Mais c'est du bon sommeil, ça?
Alors, donc, c'est deux choses. Non, c'est l'équivalent d'une sieste, peut-être. Mais récupérer à peu près une demi-heure de sommeil dans les transports, comme ça. Et finalement, bon, ça donne un peu plus. Et en effet, non, c'est peut-être pas le meilleur sommeil, mais ça lutte, par contre, contre la somnolence.
C'est pas un temps de sommeil très long. Donc, du coup, c'est toujours bon à prendre, un petit quart d'heure, comme ça.
Est-ce qu'il faudrait tous apprendre ces fameuses micro-siestes dont on parle beaucoup et qui sont, paraît-il, très récupératrices? Est-ce qu'il faudrait qu'on ait tous cette technique-là?
Oui, je pense que la sieste, dès qu'on peut arriver à se mettre dans une situation où on peut dormir, si on prend 10 minutes de sommeil ou un petit quart d'heure de sommeil en milieu de journée, c'est une bonne chose. Ça a été montré sur le plan cardiovasculaire, donc pourquoi pas?
Damien Léger.
Complètement, non seulement ça a un effet relaxant, mais en plus, ça a un vrai effet, en effet, organique, comme le disait le docteur Oignon Parola, ça protège contre les problèmes cardiovasculaires, l'immunité, la douleur. Donc la sieste a une véritable...
Mais ça, ça prend, parce que moi, si je m'endors, j'en ai pour deux heures, j'en ai pas pour un quart d'heure, ni pour 10 minutes. Donc
oui,
ça prend.
Maintenant, du coup. Parce...
Mais allez-y, je vous en prie. Allez-y, il paraît qu'on peut faire des vraies micro-siestes de 2 minutes. Mais ça, sérieusement, ça s'apprend.
Non, micro-sieste, c'est vraiment des tout petits instants un peu de détente. Mm-hmm. Une sieste, c'est vraiment un quart d'heure, 20 minutes.
Mais alors, est-ce qu'on apprend à se réveiller tout seul au bout d'un quart d'heure?
Alors, on met son téléphone au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ou on se fait réveiller. Mais par contre, pour s'endormir, c'est plus compliqué. Et en effet, ce sont des techniques qu'on peut apprendre, des techniques de relaxation, des techniques de...
Selon la capacité d'arriver à décrocher des choses déjà. Donc, dès qu'on arrive, il y a des gens qui sont... C'est très inégal, il y a des gens qui sont... très facilement dans cette capacité à pouvoir lâcher, et d'autres qui sont beaucoup plus sur le qui-vive, donc c'est ceux-là qui ont plus de problèmes à faire.
C'est inégal et c'est injuste aussi, en fait, d'une personne à l'autre, si je vous entends bien. Oui. Bonsoir, Maggie.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue sur Inter, Maggie, on vous écoute.
Merci. Alors, j'étais très fâchée tout à l'heure contre vous.
Allons
parce que vous avez dit, oui, parce que vous avez dit à plusieurs reprises que le changement d'heure n'était pour rien dans les troubles du sommeil.
Pas toujours.
Présenté comme c'était, visiblement, le changement d'heure n'en faisait pas partie. J'ai élevé 3 enfants et je suis grand-mère de 3 petits-enfants maintenant. Je vois bien que au fil du temps, c'est-à-dire qu'à partir de la date du changement d'heure jusqu'à la fin de l'année scolaire, je vois les enfants accumuler un déficit de sommeil, parce que aller faire dormir des enfants à 8 heures le soir ou à 8h30 le soir, quand il y a encore plein soleil dans leurs fenêtres, quand elles sont orientées à l'ouest, c'est pas possible. Et donc là, moi j'ai constaté vraiment un déficit de sommeil qui dérègle tout le système du sommeil et qui perturbe beaucoup les enfants. Et ça, on n'en parle pas assez.
Eh ben, on va en parler tout de suite. Maggie, moi, je suis fatiguée depuis le début du mois de mars, par exemple, et donc avant le changement d'heure. Mais cela dit, c'est une vraie question sérieuse. Sylvie Royan-Parola, le changement d'heure pour les enfants, on en parle tellement qu'on va éventuellement le supprimer.
Oui,
donc,
alors le changement d'heure, il y a effectivement différentes études qui montrent que le changement d'heure d'été est plus difficile à métaboliser que l'autre. Effectivement, la remarque de madame est tout à fait exacte. Il fait plus jour tard le soir, mais d'habitude, disons, c'est plutôt dans la semaine qui suit le changement d'heure que ça pose problème, avec des problèmes d'endormissement chez l'enfant. Ceci étant, en été, on a quand même 2 heures de décalage par rapport au méridien de Greenwich. Donc il y a effectivement, il fait jour tard, et on sait que la lumière, en particulier chez les enfants, a cette tendance à décaler l'horaire d'endormissement. Mais maintenant, après, dans une chambre, on peut aussi fermer les volets, mettre des rideaux, et donc compenser cet aspect-là.
Damien Léger, il faut l'évacuer cette question. Est-ce qu'il faut supprimer l'heure d'été ou pas?
Alors, moi, au point de vue décalage, je penserais d'abord aux travailleurs postés de nuit qui, parfois toutes les semaines, se décale de 8 heures et ça concerne 20 à 30% de la population au travail. Là, c'est une question vraiment de santé publique. Les gens qui sont en décalage comme ça, ils dorment une heure de moins que les autres, ils ont plus de problèmes de métabolique, de diabète, d'obésité, de risque cardiovasculaire. Et c'est peu connu. C'est peu connu, donc c'est exact que ça, c'est un vrai problème de santé publique. Alors, le décalage d'une heure, bon, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que le fait d'avoir de la lumière, c'est très important, en particulier pour le moral, parce que c'est vrai qu'on est quelquefois sous-éclairé. Et donc, le fait de profiter de la lumière, il y a un côté un peu bon comme ça. Donc, bon, alors, évidemment, il faut s'adapter au changement. C'est pas forcément évident pour les enfants. Vous avez raison de le souligner, madame, pour les enfants, c'est quand même un peu plus compliqué.
Réjeanne, à 22 ans, on n'est plus une enfant, mais nous dit ceci sur franceinter.fr, je suis touchée par le manque de sommeil depuis le lycée. Les plus jeunes ont déjà un rythme effréné entre les 8 heures de cours par jour, les devoirs en rentrant le soir à la maison et les transports. Les ados ne devraient pas subir le rythme que les adultes ne supportent pas eux-mêmes. Elle a raison, Réjeanne, Sylvie Royan-Parola.
Elle a raison dans le sens où, effectivement, à l'adolescence, c'est une période où on a besoin de beaucoup de sommeil, les besoins de sommeil qui ont été identifiés sont plutôt de l'ordre de 10 heures. En réalité, on voit des adolescents qui, pour 30% d'entre eux, dorment moins de 6 heures. Donc évidemment, là, il y a une insuffisance de sommeil tout à fait notable, avec une fatigue le lendemain. Et après, il y a différentes causes derrière. Vous avez effectivement, comme est cité là, le rythme scolaire, qui est beaucoup plus important que le travail, enfin le rythme d'un travailleur normal. Un ado, il a entre les cours et ce qu'il doit faire beaucoup plus que 35 heures. Et ensuite, il y a aussi les habitudes du soir qui sont de plus en plus difficiles par rapport au sommeil, et les adolescents vont rarement maintenant se coucher à une heure raisonnable, ou quand ils se couchent, c'est avec leur portable, donc nécessairement une difficulté à s'endormir. Et ce qu'on a pu montrer dans certaines études, c'est qu'il y a en plus des éveils dans la nuit, avec parfois des ados qui se réveillent une heure ou deux heures la nuit, donc évidemment pour répondre aux SMS ou pour être en communication avec les copains. Et donc, évidemment, le lendemain, une difficulté à maintenir une vigilance normale et des endormissements en cours.
Voilà, laisser le portable dans la pièce à côté ou un minimal fermé. En même temps, comme il sert de réveil, désormais, il est rarement fermé.
Oui, complètement. On peut le mettre quand même sur le mode avion. Et donc, a priori, ça évite les messages pendant la nuit.
Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Christian. On vous écoute.
Merci d'avoir pris mon appel. Ça fait des tas et des tas de fois que j'écoute vos émissions et beaucoup sur le sommeil. Je reste toujours sur ma faim.
Ah.
On ne parle pas de la qualité du sommeil. Je parle plus de la durée, je parle de la qualité ou de la difficulté d'endormissement due à des phénomènes sonores dont on ne peut pas s'isoler parce que les basses fréquences traversent les matériaux de construction courants.
Merci beaucoup pour votre question, Christian.
Oui, mais je crois que
professeur Damien Léger.
Je crois que c'est vraiment intéressant, tout à fait, d'en parler, parce que la qualité du sommeil, en dehors de la quantité, c'est extrêmement important. Et bon, il y a deux types de sommeil très récupérateurs au sein du sommeil. D'une part, le sommeil lent profond, ce qu'on appelle le sommeil lent profond, qui est un sommeil avec beaucoup d'ondes lentes dans le cerveau, très récupérateur de la fatigue physique et qui sert à la défense de l'organisme contre les infections, contre les cancers, qui sert à la croissance, qui sert à la réparation musculaire.
Contre les cancers, si on dort bien, ça marche mieux contre le cancer.
Complètement, si on dort mal, eh ben, on est fragile sur le plan immunitaire, on peut déclencher plus facilement des cancers. Ouais. Et d'autre part, le sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, et lui aussi, qui est un sommeil extrêmement récupérateur et qui permet de lutter contre l'anxiété, qui permet d'associer les émotions, qui permet de faciliter la mémoire. Et donc, je crois que vous avez tout à fait raison d'en parler. Quant aux effets des bruits sur le sommeil, c'est un des principaux pollueurs, en effet, de nos nuits. Et bon, pas uniquement les bruits des transports, puisque ils sont importants, on s'en préoccupe, le bruit des avions. Moi, je parle en ce moment avec Bruit Paris aussi, on s'intéresse beaucoup au bruit des motos, parce que c'est un des moyens de transport qui est peu régulé sur le plan du bruit. Quelquefois, une moto peut réveiller 20 000 personnes dans Paris. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, le bruit des voisins. Ça, c'est les voisins, les terrasses, tout ça. Donc, un respect de l'environnement, un respect de soi permettrait sûrement une meilleure qualité du sommeil et donc de mieux récupérer pendant
Et une vie plus urbaine aujourd'hui, une vie avec plus d'appartements, etc., qui fait que, oui, ça dégrade et que le bruit est plus présent, évidemment.
Tout à fait. Mais il y a la pollution aussi lumineuse. Non seulement à Paris, on a effectivement beaucoup plus facilement un réverbère ou une lumière qui va venir par les fenêtres. Mais vous avez maintenant dans les chambres beaucoup de d'appareils qui ont leur petite lumière qui fait que on dort mm-hmm. plus nécessairement dans un noir complet. Et il y a une très belle étude qui montre que les femmes qui sont traitées pour cancer du sein par tamoxifène répondaient moins bien au traitement et étaient moins, donc moins soignées s'il y avait des petites diodes lumineuses dans la pièce par rapport au noir complet. Donc ça pose quand même d'énormes questions derrière. Hein.
Ça pose des questions terribles même de oui, se dire c'est... que si on a de mauvais volets, non mais sérieusement, qu'il ouais. suffit d'avoir de bons volets pour ouais. que la guérison se passe mieux, c'est quand même assez terrible de l'imaginer.
Tout à fait.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à l'instant, Damien Léger, sur ce premier sommeil extrêmement réparateur. Est-ce que ça veut dire au fond que si on dort bien dans ce premier sommeil, finalement 4 heures, 5 heures de sommeil suffisent par rapport à 8 heures de mauvais sommeil ou 12 heures de mauvais sommeil, c'est ça l'idée ?
Oui, tout à fait. En fait, la quantité de sommeil, souvent, elle est nécessaire. On pense à peu près à 7 heures chez les adultes, aux alentours de 7 heures dans la semaine. Et 7 heures de sommeil léger, ça repose pas du tout. Tandis qu'effectivement, 5 à 6 heures de sommeil bien récupérateur, bien profond, ça repose mieux.
Mais ça veut dire que 7 heures, partie. C'est pas si grave si les premières heures sont bonnes. Oui. C'est pas grave de dormir beaucoup moins que les 8 ou 7 heures nécessaires.
Oui, et c'est ça. Je pense qu'il y a une quantité... 7 heures, ça paraît la quantité recommandée chez les adultes.
7 heures, c'est la durée minimale en dessous de laquelle il ne faudrait pas descendre pour ne pas se mettre en danger. Mais ça, c'est une moyenne. Mmh. Ça veut dire quand même qu'il y a aussi des différences selon les individus.
Et dans
vous
la
avez,
semaine.
Voilà, vous avez des individus court dormeurs qui sont des chanceux. Hein. C'est des gens qui dorment très peu et qui ont besoin de très peu. En revanche, vous avez des moins chanceux qui ont besoin de 10 heures ou 11 heures par nuit pour le même travail réalisé par le sommeil. Donc là aussi, il faut bien se connaître. Il faut connaître ses besoins, son rythme et essayer de coller à ça pour être en forme le lendemain.
Bonsoir Marie-Christine.
Bonsoir.
Et on vous écoute Marie-Christine.
Merci. Je me posais une question. Je trouve qu'avec l'âge, donc j'ai 50 ans, donc j'arrive à une période charnière de ma vie de femme, on va dire. Et je trouve que depuis quelques mois, j'ai un sommeil qui se dégrade de façon assez significative, à tel point que ça altère un petit peu mes journées, pour le coup, avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes assez fréquents. Et je voulais savoir si, avec l'âge, il y avait une altération de la qualité du sommeil.
C'est l'entrée de la cinquantaine qui vous donne des angoisses, Marie-Christine.
Je
sais de quoi vous...
Non, je ne me sens pas angoissée.
Ah ben, vous avez de la chance.
Mais en tout cas, je me questionne.
Est-ce que le sommeil change avec l'âge et dès 50 ans surtout, Damien Léger ?
Oui, tout à fait. Le sommeil évolue avec l'âge et plus on s'avance, plus on a de petits réveils au cours de la nuit, quelquefois qui perturbent pas trop la qualité du sommeil, mais la continuité. Et en effet, on le ressent parfois.
Ça se répare, Sylvie Royan-Parola, si je puis dire.
Il y a vraiment chez la femme, peut-être plus d'ailleurs que chez l'homme, à cette période-là, et du fait de la ménopause qui s'annonce, des modifications vraiment importantes et qui vont durer pendant 2-3 ans, où la femme va trouver un nouveau rythme et de nouveaux besoins, qui peut-être un petit peu moins long en tout cas en termes de durée la nuit. Et là, il faut aussi se laisser porter et accepter qu'il y ait des changements. Mmh. Et parfois, ne pas vouloir dormir absolument comme on dormait avant et peut-être de se coucher un peu plus tard et de se lever un peu plus tôt pour être dans une restriction du temps passé au lit permet de réoptimiser le sommeil et de relancer un peu ces mécanismes qui baissent un petit peu à cette période-là.
Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
Bienvenue Ludovic, on vous écoute.
Merci. Oui, je voulais vous poser une question, je reviens un peu sur les tablettes et sur les smartphones. C'est par rapport aux lumières bleues qui sont émises par ces appareils. Et dans le commerce, on trouve maintenant des lunettes où on a sur les tablettes des filtres anti-lumière bleue. Et je voulais savoir s'ils étaient réellement efficaces, s'ils apportaient une vraie protection ou pas du tout.
Merci beaucoup. Une question bien pratique et bien concrète, Ludovic. Est-ce que ce cache-écran, si on peut dire, qui enlève cette lumière bleue, ça suffit
ou pas, Damien Léger ? C'est que la lumière bleue, par contre, c'est exact, elle est très efficace sur l'horloge biologique. Elle atteint directement une petite zone de la rétine qui s'appelle la macula, où il y a des cellules extrêmement sensibles à cette longueur d'onde. Et donc, la lumière agit très fort en décalant l'horloge biologique. Donc, se protéger contre cette lumière, c'est tout à fait une bonne voie. Je crois que ce qui est proposé, en effet, sur les tablettes ou les lunettes, ça paraît quelque chose qui peut être efficace. Sauf que l'organisme, malheureusement, s'adapte à ces changements et que, quelquefois, il est sensible à des toutes petites zones de lumière. Donc, c'est plus complexe qu'on pourrait le penser. Mais L'intention est bonne en tout cas.
Je pense que les gens qui travaillent beaucoup sur écran, en particulier qui doivent travailler en fin d'après-midi ou en début de soirée sur écran, auraient tout intérêt à avoir des lunettes qui sont traitées pour filtrer cette lumière bleue. En revanche, après, la recommandation, c'est tout simplement pas d'écran dans le lit et au moins une heure avant d'aller se coucher.
Voilà, on supprime les écrans une heure avant d'aller se coucher. L'association du Grifona et du Millepertuis m'ont permis de passer deux heures de sommeil par nuit, à 6 heures par nuit. Insomnie chronique depuis 10 ans, constatée à l'unité de sommeil de l'hôpital, etc. Nous dit cette auditrice. J'ai donc repris mon travail et ma vie a été transformée. Est-ce qu'il y a, effectivement, des méthodes simples, là en l'occurrence à base de plantes, qui permettent de remettre le sommeil dans un droit chemin ou pas?
Alors, il y a des traitements, en effet, qui aident au niveau du sommeil, mais c'est vrai que c'est souvent plus compliqué que de prendre une substance, et que ce soit d'ailleurs des plantes ou autre chose. L'idéal, c'est d'essayer de travailler beaucoup plus sur une restructuration des rythmes et des besoins, avec toute une organisation un peu ritualisée des horaires de sommeil, une activité aussi physique dans la journée qui va être régulière et maintenue de style une activité cardio-training. Et bien sûr, de supprimer aussi tout ce qui va être stimulant, c'est-à-dire le café, le Coca-Cola, des choses de ce genre. Et après, il n'y a pas de médicament miracle pour l'insomnie. C'est vraiment toute une reprise des habitudes de la personne qui va aider à reconstituer le sommeil.
Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il faut aller se coucher mordicus, j'allais dire, Damien Léger, en se disant le sommeil finira par venir, ou est-ce qu'il vaut mieux faire autre chose en l'attendant? Parce qu'on devient dingue à pas dormir.
Ce qu'il faut, c'est se mettre dans des conditions de sommeil, parce que sinon on va jamais s'endormir. Donc se coucher, se lever à des horaires réguliers, c'est quand même important. Créer un bon environnement pour la chambre. Mais par contre, mordicus, non. Puisque mordicus, ça stresse. Et puis du coup, on n'y arrive pas.
Mais c'est ça, on peut pas commander 1, 2, 3, je dors, on se tourne et on s'endort.
D'un coup, c'est un phénomène complètement improbable qui se produit chez des millions de gens au même moment, mais effectivement on peut pas y arriver nous-mêmes. Ça vient sur
nous. Plus on veut, moins on peut.
Oui. David sur franceinter.fr nous demande, j'entends beaucoup parler des montres connectées avec un suivi du sommeil. Est-ce que c'est vraiment efficace pour améliorer la qualité de son sommeil?
Alors actuellement, mais ces montres, elles suivent l'activité repos, mais en fait, elles n'évaluent pas complètement le sommeil, ni la qualité, ni la quantité. Mais c'est pourquoi pas, à un moment donné, pour essayer de voir un peu quels sont ses rythmes, etc. Ça peut aider, ça peut contribuer à la réflexion. Mais bon, ça a une validité limitée.
Mais on voit ce qu'on dort. Au moins, on voit ce qu'on dort, et on voit aussi, parce que moi j'en ai eu un moment, on voit quelle est la qualité du sommeil. C'est vraiment fiable ou pas?
Non, on voit pas ce qu'on dort. On voit si on est allongé, si on est dans son lit.
En fait, les montres qui vous disent vous êtes en sommeil léger, en sommeil profond, en sommeil paradoxal, ça c'est faux. Tout à fait faux.
D'accord.
En revanche, s'il y a vraiment un énorme fractionnement du sommeil avec beaucoup d'éveil, là on peut se dire que la qualité du sommeil n'est pas bonne. Mais après, si la personne est vraiment tranquille, allongée, on peut pas savoir si elle dort ou si elle dort pas.
Depuis 3 ans...
Et ça serait intéressant de le... C'est une belle piste de progression de recherche. D'avoir des montres qui évaluent.
Qui soient capables de nous dire si on a eu un sommeil de qualité de qualité. Ouais. Depuis 3 ans, ma fille s'endort en cours, elle a une bonne hygiène de vie, 8 heures de sommeil, mais à la fac cette année encore, elle n'arrive pas à rester réveillée, elle a de bons résultats. Mais tout de même, avez-vous des solutions, une possibilité d'aiguillage vers un spécialiste? À partir de quand faut-il aller voir un spécialiste du sommeil? À quel moment on vient vous voir, Damien Léger?
Oui, complètement. Les hypersomnies sont des pathologies rares. Et il y a un certain nombre de centres de référence en France, en particulier à l'Hôtel Dieu, à la PHP. Mais ce sont vraiment des gens qui ont un besoin excessif de sommeil. Mmh. En effet, dormir 8 heures, avoir une activité normale et s'endormir en cours, on peut considérer ça quand même comme un signe de préoccupation. Et ça vaut la peine de savoir si c'est pas quelqu'un qui a un excès de sommeil, une hypersomnie.
Est-ce que ça peut venir d'un coup, l'hypersomnie? Là, en l'occurrence, tout va bien pendant des années, et puis subitement,
ça peut apparaître assez rapidement, c'est possible.
Sylvie Royan-Parola, ce sont des choses que vous voyez souvent, par exemple?
Effectivement, en pathologie du sommeil, on voit aussi des gens qui ont besoin de trop de sommeil, où le sommeil devient envahissant, et ça peut apparaître pour certaines des maladies pendant l'adolescence ou même enfant d'ailleurs, mais après ça peut paraître aux différents âges de la vie. Vous avez des maladies comme l'hypersomnie idiopathique qui est rare, comme la narcolepsie, et puis plus tard, souvent plus tard en tout cas, vous avez des apnées du sommeil. En tout cas, il ne faut pas quelqu'un qui s'endort dans la journée alors qu'apparemment il n'y a pas d'explication pour comprendre cette somnolence. Eh bien, il faut consulter et puis il faut essayer de comprendre après, éventuellement avec des examens, ce qui se passe.
Anne, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne, Anne, on vous écoute.
Oui, alors moi j'ai eu la chance de participer à un atelier du sommeil et j'ai entendu ce soir tout ce que j'ai entendu à cet atelier, enfin ces ateliers, parce que c'était sur plusieurs séances. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que bon, on a une nature qui nous est propre, on a un rythme de sommeil qui nous est propre, on est du matin ou du soir, mais quand il s'agit de juxtaposer les obligations du travail et les obligations que demande le corps, c'est bien compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Alors, soit je me mettais à me lever très tôt tous les matins pour respecter le rythme régulier, soit je change de travail et je vais bosser à 10h le matin, mais c'est pas possible. Je suis infirmière, je travaille de 7h à 19h. Trois fois par semaine.
Merci.
Donc, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Anne. Elle a raison, Sylvie Royan-Parola, Anne. Bien sûr que notre rythme biologique, en général, n'est pas tout à fait conforme au rythme de la vie. Et c'est le cas pour tout le monde, ça, pour le coup. C'est votre cas aussi, vous, j'imagine. C'est le cas de tout le monde.
Oui, enfin, il y a quelques chanceux qui arrivent à faire coïncider les deux, quand même. Mais c'est souvent un compromis entre son rythme, le rythme qu'indiquent nos horloges, et puis le rythme auquel on doit se soumettre. Il y a non seulement le rythme du travail, hein, comme le dit le professeur Damien Léger, mais il y a en plus, quand on a une famille avec des enfants, etc., il y a aussi toutes les obligations auxquelles on doit faire face.
Je suis médecin généraliste et plusieurs fois par jour, nous dit cet auditeur sur franceinter.fr, je suis face à des patients qui demandent des médicaments pour le sommeil. Et lorsque nous analysons ensemble les causes de leur manque de sommeil ou de leur sommeil non satisfait, je suis toujours très étonnée du rôle quasiment indétrônable de la télévision. Damien Léger, c'est ce qu'on disait effectivement tout à l'heure avec la première auditrice. Maintenant, à partir de quel moment, effectivement, quelqu'un qui vient vous voir en disant « je dors mal », vous l'aidez par un peu de chimie ou quelque chose ?
Alors, la plupart des gens qui viennent nous voir, ils sont insomniaques depuis plus de 10 ans. Et donc, dans ce qu'ils nous disent, ils souhaitent réguler les médicaments. C'est-à-dire, soit en prendre moins, soit ne plus en prendre. Donc, en fait, moi, je suis pas comme notre confrère généraliste. Je vois que des gens qui voudraient arrêter leur traitement.
Nous, on voit des gens en seconde position, quoi. Ouais. C'est pas le médecin généraliste.
En fait, la difficulté, c'est que je crois que il y a un certain nombre de malades sévères de l'insomnie. Je crois que Sylvie Royan-Parolin sera d'accord avec moi sur ce plan-là. Et ces gens-là, peut-être qu'ils relèvent quand même de traitements d'ordre peut-être pour la dépression, pour l'anxiété, pour le sommeil. Et puis, il y a un certain nombre de gens, effectivement, qui prennent des médicaments pour une question d'adaptation à la vie. Un peu comme vous évoquiez tout à l'heure, parce que le travail est à telle heure que finalement, il y a pas mal de préoccupations. Arriver à faire le tri est très difficile et demande beaucoup d'éducation autour de ce sujet. Et c'est une des raisons pour laquelle nous demandons à la ministre de la Santé, avec Sylvie Royan-Parolin, l'Institut du Sommeil, de mettre le sommeil comme thème de santé publique, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Ce qui permettrait de déplacer certains horaires, vous pensez, de modifier un certain nombre d'horaires, quand c'est possible, dans certaines administrations
Mais ça nous permettrait en tout cas de mettre le sommeil comme un des thèmes, un peu comme la nutrition, l'exercice physique, de préoccupation pour les médecins généralistes, d'éducation.
Voilà, déjà il y a un problème d'éducation et de connaissance au niveau du sommeil, où, comme le disait la première intervenante, les parents ne savent pas nécessairement quels sont les besoins des enfants. Ouais. Donc il y a déjà une éducation au sommeil, ça permettrait d'avancer un petit peu pour que les parents sachent, à juste titre, comment coucher leurs enfants, quand après, pour rebondir sur la question de l'interlocuteur médecin généraliste, il faut quand même aussi penser que le fait de prendre un médicament pour dormir de temps en temps, ça peut être aussi un moment où c'est une béquille. Et une béquille, ça aide à marcher. Donc il ne faut pas non plus culpabiliser tous les médicaments, parce qu'il y a des moments où c'est indispensable de passer par une prise occasionnelle ou pendant une courte période d'un médicament.
C'est à Toulouse que nous allons rejoindre Loïc. Bonsoir Loïc.
Bonsoir. Bonsoir.
On vous écoute, Loïc. Vous êtes bien réveillé, vous. Allez-y.
Oui, parce que mais justement, moi, j'étais porteur du syndrome d'apnée du sommeil. Mm-hmm. J'ai découvert ça en 1996. J'ai fait donc un examen au laboratoire du sommeil de Toulouse. Mmh. Et il s'est avéré qu'il y avait 220 apnées dans la nuit, 33 apnées par heure. Voilà. Alors, après, le professeur qui me suivait m'a dit, mon cher ami, il faudra vous appareiller. Mmh. Alors, j'ai commencé par avoir peur, parce que je lui ai dit, mais de quoi, un appareil, mais comment? Ah, vous allez à la SADIR. C'est l'association qui gère l'appareil. Bon, je lui dis ouais, mais elle me dit bon, il y a pas le choix parce que d'abord il me dit vous êtes chanteur. J'étais dans une chorale. Il me dit si on vous fait une opération, ben je lui dis oui, on parle de couper la luette. Ah oui, mais il me dit ça vous pourrez plus être chanteur, c'est fini. Mm-hmm. Hein. Oui. Bon, vous allez avoir une modification dans la voix. Et puis les gens le font, ils reviennent pour nous dire que ça marche pas. Donc, me dit, il vous faut supporter, si vous pouvez supporter l'appareil, il faudra, et alors, j'ai mis un sacré moment à m'y habituer.
Un sacré moment, ça veut dire quoi, Loïc? Combien de temps?
Ouf, longtemps, je sais pas, et j'étais encouragé autour de moi pour me dire, essaye, garde-le, parce qu'au départ, c'était un masque, et le masque, c'était pas facile à mettre, parce que les premiers masques, ils étaient pas aussi réglables, je voulais me lever, je voulais aller aux toilettes la nuit, j'étais obligé de tout arracher, après, il fallait remettre, ça partait dans les yeux, oh, c'était pénible. Bon, et puis, alors j'ai persévéré, j'ai continué, et bon, depuis, j'ai cet appareil et ça va bien. Et je vous assure que je ne le lâcherai jamais.
Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Loïc. Et comme ça, vous pouvez continuer à chanter. Merci beaucoup pour ce témoignage. Professeur Damien Léger, est-ce que c'est perturbant, c'est gros, c'est important? Ça ressemble à quoi, ce fameux masque dont nous parle Loïc et qui permet de lutter contre les apnées du sommeil?
Oui, complètement. Et bravo pour le courage de l'avoir mis. Parce qu'en effet, à chaque fois qu'on propose cette solution pour les patients qui ont le syndrome d'apnée du sommeil, d'être très traité par un masque à pression positive continue, c'est toujours un peu difficile à accepter, de ne serait-ce que de s'équiper dans son lit avec son conjoint.
C'est pas très glamour.
C'est pas très glamour, c'est clair, et c'est pas facile physiquement, c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire d'accepter le masque. C'est un petit compresseur avec un masque qui envoie de l'air, pas de l'oxygène, de l'air normal, sous pression. Mais alors le résultat pour un certain nombre de patients, c'est vraiment être tellement, tellement mieux le lendemain qu'après, effectivement, ils ne peuvent plus s'en passer, comme vous nous racontez, Loïc.
Ça veut dire qu'il faut plus bouger, les masques, pardon. Il a été diagnostiqué en 97. Mm. Le matériel a fait d'énormes progrès. Enfin, il le disait un petit peu, mais là, maintenant, quand on met des machines avec des masques comme ça, ça n'a plus rien à voir de ce qu'il y avait il y a 20 ans.
Question rapide et réponse rapide. Qu'en est-il des lampes LED sur le sommeil? Est-ce que ça change quelque chose ou pas?
On ne sait pas trop. Le LED, pour l'instant, c'est assez mystérieux. Il y a des groupes, il y a un groupe à l'ANSES actuellement qui étudie les effets de ce LED. Alors, ce qui est important, c'est la couleur et l'intensité. C'est pour ça qu'on les utilise. Mais par contre, l'effet du LED par lui-même, c'est encore inconnu scientifiquement.
Quel est l'impact de l'alimentation sur le sommeil? Est-ce qu'il est important? Sylvie Royan-Parola.
Oui, mais il n'est pas si bien connu que ça. En fait, c'est surtout en fait la rythmicité des repas et la teneur des repas en termes de graisse, de repas lourds ou pas lourds, et la distance,
c'est ça, l'heure de repas par rapport au sommeil,
qui sépare le repas. Là, apparemment, les études qui ont été faites ces derniers temps, il faudrait en toute rigueur manger avant 20 heures, ce qui dans la vie française semble compliqué.
Ah ben, nous, ça va être compliqué, à moins de pouvoir parler la bouche pleine, ce qui est encore autre chose. Les cauchemars altèrent-ils le sommeil? J'ai 27 ans, nous dit cette auditrice qui s'appelle Mélanie, je dors mal depuis mon enfance. Est-ce que je suis plus à risque du point de vue de la santé? Est-ce que ça peut altérer ma mémoire, par exemple?
Non, les cauchemars, ce sont des rêves qui sont difficiles, mais bon, ça n'a pas d'effet. Ça révèle simplement une anxiété par rapport à des sujets, mais ça n'a pas un effet négatif
sur la qualité du mauvais sommeil quand on fait un cauchemar, ou est-ce que c'est ce qu'on imagine parce que ça nous met pas très à l'aise, mais en réalité c'est du vrai sommeil profond quand on fait un cauchemar ou quand on rêve?
Oui, tout à fait. Non, c'est du sommeil paradoxal qui se passe en général, et donc c'est tout à fait normal de faire des mauvais, des bons rêves, mais Et donc, simplement faire des cauchemars répétés, ça signifie quelquefois qu'il y a une anxiété, un stress.
Cette mise en abîme que nous propose Isabelle sur franceinter.fr, que peut l'hypnose pour le sommeil ? Sylvie Roland-Parola, est-ce que l'hypnose aide à mieux dormir ?
Alors, l'hypnose et le fait de mieux dormir, enfin, chez les insomniaques, c'est pas du tout le traitement de fond. En revanche, ça marche bien, puisqu'on parlait de cauchemars ou de terreurs nocturnes, par exemple. Il y a des travaux sur les somnambulismes dangereux, par exemple. Il y a plus de travaux qui sortent par rapport à ça et qui font que c'est une technique qui peut être intéressée dans certaines pathologies du sommeil.
Question formidable de Vincent. Tiens, c'est pour vous, professeur Damien Léger. Est-ce qu'on peut stocker du sommeil et rattraper le sommeil?
Oui, c'est une très bonne question parce que oui, on peut faire des réserves de sommeil, en particulier avec les sportifs, avant, par exemple, les courses transocéaniques ou dans des conditions où on sait qu'ils vont pas pouvoir beaucoup dormir. Eh bien, le fait d'avoir très bien dormi les jours précédents, ça permet de stocker du sommeil et d'avoir une bonne performance.
Ça veut dire si on dort 12, 14 heures d'un coup, on peut ne pas dormir la nuit prochaine, la nuit suivante, c'est ça que ça veut dire ça?
En tout cas, on sera beaucoup plus en forme la nuit suivante, la journée suivante.
Ça ne dure pas très longtemps, malheureusement, le stock. Ouais.
Alors, est-ce que j'ai entendu dire, ce sera la dernière question sur franceinter.fr, que le sommeil d'avant minuit était le plus réparateur? Est-ce que c'est vraiment admis ça par les spécialistes?
Alors non, c'est le premier sommeil, comme disait Damien Léger, qui est le plus réparateur, et donc que vous le preniez à 10h du soir ou à minuit, si vous êtes du soir, vous allez avoir ce style de sommeil. Maintenant, dormir constamment à décaler, et en particulier chez les ados, n'est pas non plus une bonne chose. Donc effectivement, il faudrait dormir un petit peu plus tôt et se coucher entre 10h et minuit.
Allez,
ce serait idéal.
Pensez pour l'ami de Kéla de Morant qui va se coucher à 9h30 et qui se réveillera à 3h du matin. Pas facile tous les jours. Merci beaucoup. Portez-vous bien.